Ouellette.
Vraiment dans sa coche, là.
En direct.
Avec JC et Patricia.
Radio. X.
Quel bon sujet. Vous savez qu'on fait encore à ce jour. Moi, je prévois qu'on va lâcher ça là, à quelque part au tournant de l'été prochain. Le gouvernement de François Legault va nous aviser que la bourse carbone, là, on va laisser faire. Là, pis que ça va être très électoraliste, tout ça. Mais jusqu'à ce jour, on fait encore partie de cette fameuse bourse carbone-là. D'ailleurs, le BC s'est retiré, à moins que je me trompe. Le BC est plus là-dedans. Il reste nous autres et la Californie. Comme c'est commencé, on va finir comme ça a commencé. Puis là, on se dit tout le temps, bien écoute, c'est, en Californie, ça marche bien, ça va bien. Et Vincent Gelozo m'a envoyé un article. Puis tabarouette que c'est bon. C'est très bon. Vincent Gelozo, premièrement, je te salue. Bonjour, économiste senior à l'Institut économique de Montréal, professeur au George Mason University. Comment ça va?
Très bien pour au fur et à mesure que le temps des fêtes commence à approcher, je m'améliore de jour en jour.
Jusqu'à atteindre le paroxysme là, le 25 décembre, où tu te transformes en l'enfant Dieu.
Mais non seulement ça, ben, je ne sais pas si je me transforme à ce point-là, mais c'est encore mieux ici en Virginie parce que j'ai Noël puis j'ai pas la neige.
Non!
C'est magique. Moi, j'ai découvert que le paradis existait sur Terre, puis il est à peu près où est-ce que je suis.
Ouais, moi, tu vois, quand je veux vraiment découvrir le paradis, je descends encore un peu plus bas.
Ben écoute, j'ai déterminé que la Virginie, c'est le plus au nord que je suis prêt à vivre maintenant. Je suis prêt à descendre plus au sud.
Ah ouais, ça se négocie. Écoute, parlant justement de descendre plus au sud, jasons de Californie un peu avec sa ben, bourse, hein?
Faut pas exagérer, là.
Avec sa bourse carbone révolutionnaire, hey, tu m'en as sorti une belle saucée. Ça, j'aime ça. Ça, là, c'est des genres de bell curve. Tu t'attends pas à ça, mais ça fait effet. Parle-moi de l'article que tu m'as envoyé du Cato Institute.
Ben, en fait, c'est un résumé qui a été fait d'une étude. Fait que je t'ai sorti le résumé pour pas aller dans le trop technique. C'est un article dans une revue scientifique qui s'appelle Management Science. Et le « too long didn't read » pour les auditeurs, c'est que le système californien de bourse du carbone, bien qu'il réduise les émissions de gaz à effet de serre, il a augmenté les émissions de substances toxiques, donc des produits chimiques qui sont liés à des déversements. Il les a augmentés de manière causale. Et c'est une excellente illustration de comment souvent... l'État corrige un premier problème, mais au prix d'en créer un second.
C'est ça le
too long didn't read.
Puis tu sais, le titre est bon, là. Tu sais, donc, ben, l'expression anglaise, la traduction en français, là, c'est déshabiller Pierre pour habiller Paul. Tu sais, donc, c'est-à-dire qu'on mise sur quelque chose. On est dans la pure parure, Vincent. Tu sais, dans cette histoire-là, là, on est sur le visuel. De quoi on a l'air? Bien, on a l'air d'une gang qui réduit ses GES, mais au détriment de quoi et pourquoi? Explique-nous qu'est-ce qui fait en sorte que ce que tu viens de dire, c'est une réalité. Là. C'est-à-dire, comment ça que les compagnies ont baissé leurs émissions de gaz à effet de serre? On parle quand même, tout dépendant des compagnies et des secteurs, là, entre 3 et 9 %. Fait que, tu regardes ça en surface, tu dis, Caroline, c'est une bonne nouvelle. Ils ont baissé là, leur production de GES. On s'en va vers un monde meilleur. C'est quoi le lien entre ça et le fait que les éléments toxiques, les émissions toxiques, chimiques, toute une liste, là, ont augmenté?
Bien, c'est parce que quand on regarde l'inventaire des émissions de gaz à effet de serre en Californie, à peu près 15 % des émissions viennent des activités de traitement de déchets toxiques. Donc, on parle de particules lourdes qui peuvent rentrer dans l'air, mais aussi des choses qui peuvent être rejetées dans des cours d'eau, des déchets qui doivent être traités. Et ces déchets-là ont des conséquences non seulement sur d'autres aspects de l'environnement que le réchauffement climatique, mais aussi sur des aspects de santé pour les gens. Mais comme ça prend beaucoup d'énergie pour faire le traitement des déchets toxiques, ben si tu augmentes le coût des émissions de gaz à effet de serre, tu augmentes le coût du traitement des déchets toxiques. Et donc, tu améliores sur un plan environnemental, mais tu réduis sur l'autre plan. Donc, ce que tu as fait, c'est que oui, tu as réduit les émissions de gaz à effet de serre, ce qui cause le réchauffement climatique. Et par contre, de l'autre côté, tu as augmenté les émissions de substances toxiques. Donc, au net, ça fait comme une sorte de, d'argument que tu n'as pas autant de bénéfices que tu crois de la politique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bénéfice de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on commence à comprendre dans le rôle de l'État pour gérer des problèmes environnementaux, parce que l'État est capable de régler un problème, mais encore une fois, il le fait au prix d'en créer un second problème.
Ouais, il le fait souvent avec un manque de nuances, puis un manque de, d'élargissement, puis d'essayer de... Parce que, écoute, au moment où je vous ai dit là, que les émissions de gaz à effet de serre avaient baissé entre 3 et 9 % tout dépendant des secteurs, on nous apprend que les émissions toxiques dont tu parles ont augmenté pas entre 3 et 9 % entre 26 et 42 %. T'sais, donc, on est en train de se créer... Donc là, j'imagine qu'on parle d'éléments toxiques. Vincent, on parle quoi? De la terre, de l'eau, de tout le reste? Là? Ça, c'est quoi? C'est des éléments chimiques?
On peut parler de particules lourdes, notamment. Donc, des choses que... des particules lourdes, c'est des particules dans l'air qui contribuent à causer des fois du smog, mais surtout sont associées à des problèmes de santé comme l'asthme. Donc, ça peut être associé à des problèmes pulmonaires. Et cette augmentation-là, tu sais, 26 à 42 %, ça pourrait être une petite augmentation, tu sais, une grosse augmentation en proportion, mais si le niveau y est bas...
Ouais, je comprends.
C'est juste... C'est un problème de base. Mais même quand on regarde, est-ce que c'est au-dessus d'un niveau que les agences de santé jugent tolérable? Bien, la Californie, qui était généralement en dessous de ces niveaux-là pour plusieurs indicateurs, maintenant a l'air de dépasser les niveaux qui sont jugés tolérables. Donc, il y a des coûts importants de santé qui sont associés à ça. Donc, oui, il y a eu des augmentations sur un autre point. Puis ça, je pense, la leçon à faire ici, c'est que ça fait des années que je dis que... Puis c'est pas la première fois que j'en parle, j'en ai parlé dans le choix plusieurs fois. Je suis un partisan de la taxe sur le carbone ou des marchés du carbone. Mais je mentionne tout le temps que c'est important d'utiliser des politiques de marché et surtout d'enlever les choses que l'État fait qui sont contre-productives. Et on a une multiplicité de politiques publiques dans lesquelles l'État a façonné ou a aggravé le problème initial. Et la Californie, ici, je ne peux pas imaginer pire exemple de comment tu crées un problème et tu l'aggraves. Même le Québec n'est pas capable de faire des politiques ridicules comme ça. Donc, par exemple, en Californie, tu as des politiques d'urbanisme hyper restrictives, du zoning, hauteur maximum des bâtiments, exigence de stationnement, difficulté de construire, de densifier dans les villes. C'est quoi l'effet que ça a? Bien, tu forces l'étalement urbain, tu forces une dépendance plus grande à l'automobile, des trajets domicile-travail qui sont plus longs qu'ils sont autrement, donc plus d'émissions de gaz à effet de serre, un plus gros problème climatique pour commencer. Donc là, le pyromane a décidé de mettre le feu à la situation en jouant avec les mécanismes de marché. Puis là, il dit, regarde, je suis aussi le pompier. Puis là, regarde, là, il va dire, regarde, j'ai réglé une partie du problème du réchauffement climatique en réduisant les émissions nettes de CO2. Mais là, il y a un nouveau problème que j'ai créé. Je vais encore une fois m'improviser pompier. Alors qu'une grosse partie du problème, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution à l'État. Je sais qu'il y a des gens qui pensent que je dis ça. Je vais laisser ces illettrés-là, généralement ceux qui travaillent à l'IRIS, penser ce qu'ils veulent penser de ce sujet-là. Il y a des politiques que l'État peut faire pour régler des problèmes, mais la première politique publique qu'on devrait avoir, c'est celle que les médecins ont. First, do no harm. Tout d'abord, ne faisons aucun dommage. Ici, la Californie a une multiplicité de politiques publiques qui sont contre-productives, qui contribuent aux problèmes. Puis là, j'ai mentionné le règlement dans les villes, mais t'as les restrictions sur l'énergie nucléaire, les obstacles réglementaires au déploiement d'infrastructures.
Ouais, la Californie, c'est quelque chose.
Le transport d'électricité. Donc, t'as un paquet de problèmes qui sont jetés. Puis, d'ailleurs, je souligne que toute personne qui est contre ou qui du moins veut fermer le peu d'énergie nucléaire qu'on utilise au pays ou dans d'autres places, réduire la proportion, ne peuvent plus parler de réchauffement climatique et être crédibles.
Absolument.
Ici, on a un État qui a contribué à créer un problème et après ça, il s'invoque pompier alors qu'il est lui-même le pyromane. Je pense qu'ici, j'aimerais ça que les gens comprennent ça. Avant de demander à l'État de régler un problème qui est réel, le réchauffement climatique est un problème réel, demander comment est-ce que l'État l'a causé en jouant avec les mécanismes du marché, en essayant de subventionner des industries. Les parallèles québécois ici sont multiples. On a des subventions à des cimenteries, on a des subventions à des industries de fabrication de navires, on a des subventions à des industries de fabrication de batteries. On a eu des subventions dans les années 90, on oublie à des fabricants automobiles. L'État devrait arrêter d'essayer de faire des choses. Puis des fois, c'est même pas son intention de le faire, c'est juste une conséquence inattendue de l'interventionnisme de l'État. Commencer à penser qu'est-ce qu'on peut enlever qui améliorerait la situation avant de dire rajoutons des nouvelles couches d'intervention.
Ben, tu vois, c'était ça ma prochaine question. Là, on fait quoi là, en Californie? On va faire une bourse des produits toxiques? On va en rajouter une couche, là, parce que là, ils vont prendre acte de ça. Ils vont dire, ben là, on a l'air d'une bande de clowns. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ils vont encore jouer là-dedans, Vincent. Puis ce que je trouve intéressant aussi avec l'analyse de la Californie, c'est que je pense que c'est, outre la langue, c'est probablement le plus québécois des États américains. Tu sais, là où il y a beaucoup de démocratie, beaucoup de lourdeur, beaucoup de politiciens, beaucoup de lois, tu viens de l'exprimer très clairement. Tu sais, donc, moi, je regarde ça aller de loin. Est-ce qu'il y a une possibilité que ce soit exactement le même constat ici, mais qu'on s'en soit juste pas rendu compte encore?
Bien, je pense que oui. En fait, dans le passé, j'en ai parlé à plusieurs fois au Québec. Deux des industries qui sont très subventionnées au Québec, t'as l'industrie sidérurgique qui reçoit des aides directes et indirectes de l'État. Et même pendant un moment, il y a eu une société d'État qui s'occupait de produits sidérurgiques, Sidbec. Et c'est une des industries qui émet le plus de gaz à effet de serre. Le Québec n'a pas un avantage comparatif en production de produits sidérurgiques. Le Québec devrait arrêter d'essayer de subventionner une industrie qui pourrait être plus efficace ailleurs qu'ici et ne pas générer plus d'émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est un exemple, mais t'en as d'autres. T'as l'industrie, par exemple, et ça, c'est le meilleur exemple, c'est l'agriculture au Québec. Chaque fois, je me fais des amis quand je mentionne ça. Mais le Québec n'est pas une terre propice à tous les types d'agriculture, à part quelques endroits pour certains types de récoltes. Mais en ayant autant de protections, de subventions, de barrières réglementaires à l'importation d'aliments étrangers pour le marché québécois, ce qu'on fait, c'est qu'on garde des millions d'acres de terre sous production, alors qu'ils pourraient retourner à la nature. S'ils retournaient à la nature, ils pourraient agir comme des capteurs de carbone, de telle sorte que les émissions nettes de CO2 du Québec et du Canada pourraient baisser. Ici, ce qu'on a, c'est qu'on a des équivalents québécois, ce n'est pas les mêmes cas, mais on a des politiques publiques qui créent le problème et après ça, on a des politiciens qui se font succession l'un après l'autre pour nous dire que, ah, voilà, je vais m'improviser le médecin qui va régler le problème, le pompier qui va régler le feu, alors que ce sont généralement eux qui créent la pathologie initiale ou qui sont le pyromane qui a parti le feu.
Donc, tu sais, tu me dis, t'es en faveur d'une bourse carbone, mais finalement... On court après notre cul, là, tu sais. Toi, dans l'optique...
Non.
Vas-y donc.
Je dois faire une interruption, je m'excuse. La bourse du carbone ou la taxe du carbone, qui sont des équivalents d'une certaine manière, le but, c'est de remplacer, c'est de dire, c'est quoi la politique la plus minime que l'État pourrait faire pour régler le problème de pollution et... qui est supérieur à toutes les alternatives. Et c'est très clair qu'une taxe carbone, qui a un autre surnom dans la littérature, on appelle ça une taxe pigouvienne après l'économiste qui a comme inventé le principe. Mais quand tu lis après, les comme des espèces d'alinéas que les économistes mettent autour de ça, ils disent que c'est ça en remplacement de réglementation, command and control, donc de l'interventionnisme, ou que tu dois, chaque dollar de revenu que tu génères comme ça, tu le baisses sur d'autres choses qui sont neutres, donc tu baisses l'impôt sur
ça,
le revenu.
Ça, c'est le bout qu'on ne fait pas, là. Donc, nous, on fait juste la moitié du chemin, puis après ça, on dit la job est faite, mais personne ne gagne. Là.
Exactement. Donc, en plus d'avoir participé à créer le problème, ce qui fait en sorte que le remède doit être un peu plus grave qu'il l'est autrement, parce que si l'État n'avait pas contribué à causer une partie du problème, la solution n'aurait pas besoin d'être aussi extrême. Mais en plus d'appliquer une solution qui doit être plus lourde à appliquer, l'État décide aussi de l'appliquer le plus imparfaitement possible, de ne pas suivre les recommandations usuelles et de s'en servir pour, à toute fin pratique, le fonds vert au Québec. C'est un sludge fund qui a servi à un ministre de l'économie de distribuer des subventions comme les prêtres distribuaient les indulgences. Ça n'a réglé aucun problème, ce fonds-là. On a eu des effets positifs sur la réduction de gaz à effet de serre, mais on n'a eu aucun des autres bénéfices qui étaient supposés être là et les effets compensatoires n'ont pas pu émerger. Et donc, ce qu'on a, c'est le pire un peu de toutes les options possibles, sauf la vraiment pire où est-ce qu'on ne règle pas une partie du problème. Et je pense que les gens devraient commencer, encore une fois, je le réitère à chaque fois, avant de demander que l'État règle un problème avec une action, demander qu'est-ce que l'État peut arrêter de faire qui réduirait l'ampleur du problème. Et c'est seulement quand on a passé à travers toutes les choses qu'on peut enlever qui règlent une partie du problème qu'on peut ensuite ajouter une autre couche ou une nouvelle couche d'intervention qui pourrait contribuer à régler le problème. Parce que là, à ce point-là, tu peux dire avec un peu plus de certitude que les effets inattendus des politiques publiques ne sont pas aussi graves que ce qu'on pourrait s'attendre.
Je pense qu'on a fait un beau tour, Vincent. Merci.
Oui, j'étais de bonne humeur aujourd'hui. Ah oui, t'es... Noël approche. Quand c'est Noël approche, je suis toujours de bonne humeur.
Quand la session finit, tu viens productif.
Je suis toujours productif. Hein? Je suis toujours productif.
Salut Vincent, bonne semaine.
Toujours un plaisir.
Ciao, bye. Vincent Geloso, mesdames, messieurs. On fait une pause, on revient avec un beau patati et un beau patata.
Ouellet, en direct.
En direct. On revient dans pas long.
Radio X.